Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. La notion de prix juste est le catalyseur d'une série de problèmes concernant le monde antique, mais aussi et surtout, c'est un fil rouge qui traverse la réception des idées juridiques romaines en Europe et est un enjeu majeur de l'historiographie contemporaine. Au cours de ces 30 dernières années, l'attention s'est portée sur la pensée économique prémoderne, en particulier sur sa matrice religieuse au Moyen-Âge, notamment dans la théologie et l'histoire franciscaine, et on pourrait remonter même plus haut pour l'origine de cette attention, par exemple un article de John Baldwin en 1959. L'œuvre de Pierre de Jean Olivier, actuellement en pleine redécouverte, constitue une contribution de premier ordre au développement de la pensée sur la richesse. Son traité des contrats, issu des leçons données au couvent franciscain de Narbonne au printemps 1293, analyse la moralité des actes marchands et constitue un des ouvrages les plus marquants en ce domaine de tout le Moyen-Âge. Né d'une aspiration à la pauvreté évangélique, les ordres mendiants ont accompagné la croissance urbaine du XIIIe siècle et les développements de l'économie marchande, transformant, comme l'a bien écrit Sylvain Piron, une attitude faite de méfiance et, dans le cas de Saint François, de rejet viscéral de l'argent, une écoute attentive des problèmes moraux qui s'est posé aux élites urbaines. Alors, si j'évoque les franciscains et les Moyen-Âge dans le cadre d'un cours qui porte sur la pensée romaine, c'est parce qu'il est généralement admis que Pierre de Jean Olivier, mais plus largement avant lui, Gratien dans son décret ou Saint Thomas dans sa somme et après lui Nicolas Oresme et plus tard Marsilio Ficino, pour ne citer que quelques protagonistes d'un débat foisonnant et ubiquitaire, ont tous puisé au droit romain la matière première de leurs raisonnements. Donc, il s'agit d'une pensée médiévale, mais qui puise ces éléments, ces composants du droit romain. Alors, vous savez que le digeste de Justinien, qui contient les extraits des juristes romains, fut redécouvert à partir du XIe siècle et devient la base de l'enseignement universitaire. Il était appris non seulement par les juristes intéressés au droit privé et public, mais aussi par les canonistes. Ces circonstances font partie des conditions dans lesquelles l'expression « juste valeur » est arrivée à l'attention des juristes et théologiens médiévaux et ensuite à l'humanisme. Tous en sont convaincus, plus ou moins. Pourtant, à mon avis, les historiens ne s'intéressent aux éléments du droit romain que dans les limites de ce que les médiévaux eux-mêmes ont déjà sélectionné sans aller plus loin. C'est méthodologiquement faire fausse route, car les médiévaux, eux, connaissaient l'ensemble du corpus juris de Justinien. En d'autres termes, l'historiographie actuelle a tendance, pas tous, mais elle a tendance à considérer les droits romains comme un élément stérilisé, tandis que pour les médiévaux, il était vivant. Il est donc utile de vous présenter les idées romaines autour de la juste valeur dans leur contexte propre. Cela nous permettra d'avancer davantage dans notre quête de la pensée romaine sur le bon usage de la richesse, car, nous le verrons, les discours sur le justum pretium ouvrent des aperçus précieux sur la théorie romaine de la formation du prix et sur la conception romaine du marché. D'autre part, reparcourir la pensée romaine autour de la juste valeur nous permettra aussi de voir plus clairement dans quelle mesure la contribution des théologiens et des juristes médiévaux a dépassé le droit romain et en quelle direction. D'abord, une petite cartographie. J'aime bien le mot, donc je vais l'utiliser souvent dans mes cours. Commençons par dire que la pensée médiévale tourne fondamentalement autour de deux thèmes différents, bien que liés. Le prêt usuraire, d'une part, et le prix d'achat et de vente, d'autre part. Donc deux pôles. L'usure, les prêts usuraires et le prix d'achat et de vente, d'autre part. Les deux thèmes sont réunis, pour ne vous donner qu'un exemple, par saint Thomas d'Aquin dans ce passage de la Summa Theologiae. Nous devons maintenant considérer les péchés qui concernent les échanges volontaires. Alors, chaque mot a une signification, faut bien la saisir. Et d'abord, la fraude commise dans l'achat et la vente. Deuxièmement, les intérêts perçus sur les emprunts. Donc, voilà, ces deux questions étaient déjà traitées par les droits romains. Bien entendu. Donc les deux questions, les deux pôles, l'usure, un contrat de vente, étaient bien entendu déjà traités par les droits romains. Pour ce qui concerne notamment l'usure, vous vous souvenez que nous avons mentionné les normes limitant le taux d'intérêt qui remontent aux 12 tables, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc à peu près 1701 avant cette proposition de saint Thomas. Alors, sur la question de l'usure, l'Église catholique était très restrictive. Comme le montre le décret de Gratien, œuvre majeure du droit canonique, composée vers le milieu du XIIe siècle. Alors, dans le décret de Gratien, on dit « Si vous prêtez votre argent à quelqu'un, et vous en attendez plus de ce que vous avez donné, donc si vous prêtez votre argent à quelqu'un et vous en attendez plus de ce que vous avez donné, vous êtes des usuriers. » dit le décret des Gratiens, donc le droit canonique. Et en cela, vous devez être désapprouvé, non loué. Donc si vous prêtez de l'argent et vous demandez des intérêts, vous devez être désapprouvé, non loué. Alors, le concept qui est à la base de ce propos est très simple, très très simple. Si je prétends recevoir en retour plus que ce que j'ai donné, je me procure un enrichissement illégitime, au détriment d'autrui. Donc, c'est répréhensible. On parlait même de vol du temps qui n'appartient qu'à Dieu, puisque l'usurier fait payer le temps écoulé entre le prêt et son remboursement. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, dans une société telle que la société communale du bas Moyen-Âge, qui s'ouvrait de nouveau au commerce et qui allait bientôt connaître l'envol des marchands, l'essor des grands banquiers, les Fugères, Médicis, la question de légitimité des prêts à usure était évidemment très délicate. Je ne suivrai pas aujourd'hui ce volet de la question, mais bornant au deuxième volet, celui du juste prix dans le cadre du droit romain. Mais avant de quitter la pensée médiévale, le texte de saint Thomas, bien que bref, nous permet de faire un double constat. D'abord, il nous montre clairement quelle était la perspective à partir de laquelle le problème était appréhendé au Moyen Âge. C'était la perspective du péché. Les traités de Pierre de Jean Olivier, que j'ai déjà évoqué, d'une cinquantaine d'années successives à la somme de saint Thomas, le montre de façon plus directe encore. Ce traité était issu d'un enseignement de théologie morale délivré dans des studia, des lieux d'études provinciaux de l'ordre franciscaine à Montpellier et à Narbonne, enseignement destiné à former les frères à leur tâche de confesseur. Plutôt que d'offrir un traité complet sur la confession, Olivier insiste sur des sujets qui causent la plus grande perplexité chez les confesseurs, à savoir les contrats. Donc vous voyez pourquoi un franciscain s'occupe des questions de droit, et notamment des contrats. Parce qu'il s'agit, disons, d'un terrain qui pose des problèmes aux confesseurs, surtout dans le contexte d'une effervescence économique. Ainsi, les contrats de prêt et de vente et les comportements des parties contractantes s'inscrivent au Moyen-Âge dans un cadre autre que le seul droit. Donc, il faut bien comprendre que lorsque nous lisons de prise de position sur un sujet, il faut toujours comprendre quel est le cadre dans lequel ces considérations s'inscrivent. Alors, il ne s'agit pas seulement du cadre juridique, ni même pas en premier lieu du cadre juridique, mais c'était d'abord le rapport entre les négociations et la doctrine chrétienne, les valeurs chrétiennes. Pour les juristes droit romain, donc vous voyez que je suis en train de vous montrer le décalage entre le point de vue des juristes romains et le point de vue de ceux qui ont remployé leur pensée au Moyen-Âge. Le point de vue des juristes romains, des textes qui sont recueillis dans le digeste que nous allons lire, était complètement différent parce que cette superstructure donc de la doctrine chrétienne, n'existait pas. Donc c'est un point de vue exclusivement juridique qu'ils adoptent. Et pour les médiévaux, en revanche, comme je viens de le dire, le problème était de faire coexister ces deux différents univers de référence. Mais le texte de saint Thomas, outre l'empreinte chrétienne, importe une autre. Également incontestable, celle de l'aristotélisme. Ce petit texte, il y a tout dedans. Car quand saint Thomas parle de change volontaire, voluntarias commutationes, échange volontaire, il est en train d'utiliser une catégorie de l'éthique à Nicomaque. C'est donc ce traité qui constitue l'arrière-plan du discours thomiste dans ce contexte. Dans ce traité, Aristote définissait les vertus à partir de leur contraire, du vice correspondant. La vertu de la justice, la dikaiosune, est donc définie par Aristote à partir de la pléonexia, de l'avidité, dont seront coupables ceux qui profitent plus que nécessaire. Voilà pourquoi prêter de l'argent et en demander un retour plus par les biais des intérêts peut poser problème, à la fois pour Aristote et pour la doctrine chrétienne. Pour le droit romain, en revanche, même si une influence de la philosophie grecque et notamment aristotélicienne ne peut pas être exclue, elle était bien moins imposante. Quittons donc le point d'observation médiéval pour revenir à l'Antiquité, notamment pour nous occuper du sujet du juste prix. Deux réflexions s'imposent, d'ailleurs strictement imbriquées. La première est d'ordre terminologique. Les Romains utilisent au moins deux substantifs différents pour indiquer notre sujet, pretium et estimatio. Ces mots sont à leur tour accompagnés par au moins deux adjectifs, justum et verum, sur lesquels nous reviendrons sous peu. Donc, pour l'instant, il faut plutôt prêter notre attention au substantif pretium estimatio. Alors, pretium indique les résultats. Un résultat, l'autre, estimatio, c'est plutôt l'opération d'évaluation. Mais au fond, il exprime la même notion que nous pouvons traduire par valeur. Donc, c'est le terme que j'utiliserai souvent, valeur, même comme traduction du substantif pretium, prix. Car le terme prix, pretium, évoque trop étroitement le prix d'une marchandise dans un contrat d'achat et de vente. Donc, j'espère qu'on comprend ma démarche, que j'arrive à m'exprimer de façon suffisamment claire. Dans le texte, nous trouvons les deux substantifs. On pourrait traduire le mot « pretium » par les correspondants en italien ou en français « prix »,« prezzo ». Je ne le ferai pas, ou pas souvent. Je préfère utiliser le terme « valeur » parce que c'est avec cette acception plus large que les Romains eux-mêmes l'utilisaient, et surtout parce que je pense qu'il y a une pensée implicite en nous qui nous fait lier l'idée de prix seulement au contrat d'achat et de vente. Mais nous allons le voir tout de suite, les contextes où les juristes romains utilisent le terme prix vont bien au-delà du seul contrat d'achat et de vente. Et cela peut paraître une nuance, mais je crois que les débats historiographiques contemporains sont souvent un peu fourvoyés par cette identification trop stricte du pretium au seul prix de l'achat et de la vente. Alors, cette précision lexicale recoupe un deuxième constat. En lisant les textes des juristes romains, il faut tenir compte à chaque fois du contexte dans lequel ils étaient insérés. C'est-à-dire, pour quelle raison la question du juste prix y est posée. Et justement, il ne s'agit pas toujours, même pas souvent, comme la réception médiévale pourrait le faire croire, du contexte de l'achat et de la vente. Le plus grand nombre de mentions du justum pretium concerne le procès. Donc, ce n'est pas le contexte d'un contrat, c'est le contexte du procès. Et il est facile, je crois, de comprendre pourquoi. Le juge romain était souvent amené à estimer la valeur de la chose en litige, car le procès romain se concluait toujours, en cas de condamnation, par une condamnation du défendeur au paiement d'une somme pécuniaire. Donc, l'issue d'un procès civil romain était toujours, en cas de condamnation au paiement d'une somme pécuniaire. Donc, le dispositif du procès impliquait une phase d'évaluation. Il fallait chiffrer. Et c'est une opération qui revenait au juge d'effectuer. Alors, la question la plus importante sur laquelle nous allons revenir est celle des critères qu'il devait employer pour réaliser cette opération d'estimation avant de prononcer la condamnation. Alors, pour l'instant, avant de revenir sur les critères, examinons quelques contextes. Prenons un exemple simple, moi je le considère simple. Si le testament dispose un legs à la charge d'un héritier, en le chargeant d'acheter la chose d'autrui ou d'en porter la responsabilité vers le légataire, si l'héritier ne peut pas la racheter parce que le propriétaire ne veut pas la vendre ou il ne la vend qu'en prix excessif, l'héritier devra payer au légataire la juste estimation. Alors, il s'agit du juriste Gaius, moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. Un legs, vous le savez, est une gratification qu'on dispose par testament. Il peut porter, par exemple, sur une chose déterminée, une maison, un esclave, dans le droit romain, une chose qui appartient au bien du défunt. Mais le testateur peut aussi charger l'héritier de racheter une chose qui n'appartient pas au défunt, qui ne rentre pas dans la succession, de la racheter d'entière et de la donner au légataire. Donc l'héritier rachète la chose qui appartient à un tiers et la donne au légataire. Alors, je sais, vous allez vous demander, mais pourquoi l'héritier devrait accepter de racheter une chose, de la donner au légataire? Alors, la réponse est simple, parce qu'il a accepté la succession. Donc, il n'est pas obligé d'accepter la succession. Donc, il a calculé que ce qu'il obtiendra des biens de l'héritier, disons, le compense du sacrifice qu'il doit accomplir pour racheter la chose et la donner entière. Donc, faisons l'exemple, l'héritier a accepté la succession, donc il doit racheter ce qu'il doit donner en legs. C'est une opération que aujourd'hui est considérée nulle par l'article 1021 du Code civil, mais le droit romain donnait plus de liberté au testateur et à l'héritier. Donc c'était un legs légitime, valide. Le problème est qu'est-ce qui se passe si le tiers, propriétaire de la chose, ne veut pas la vendre ? Bien sûr, le tiers n'est pas ni le défunt, ni le légataire, ni l'héritier. C'est un tiers. Un parmi nous. Donc, l'héritier arrive chez nous et nous dit, bon, vous savez, j'ai accepté la succession et donc il faut que je rachète cette chose qui est à vous et je la donne en légataire. Et disons, ce tiers se dit, mais j'ai aucune intention de vous la vendre. Bon, je comprends, mais je ne vais pas vous la vendre. Ou, autre possibilité, ah, c'est très bien, je vous accueille avec toute ma bienveillance, mais le prix, c'est 10 fois plus cher que le prix que normalement on obtiendrait sur les marchés. Donc, quelque chose d'extravagant. Qu'est-ce que l'héritier qui a essayé en vain de racheter la chose peut faire ? Bon, il faut qu'il offre, c'est ce que Gaius nous dit, qu'il offre au légataire une somme équivalente à la chose qu'il n'a pas pu racheter. Et s'il n'arrive pas à calculer cette somme, ou s'il la calcule de façon que le légataire considère inacceptable, ça revient au juge de faire l'estimation. Alors, vous comprenez, il y aura un procès entre l'héritier et le légataire, et à la fin, l'héritier sera condamné à payer une somme qui correspond à la valeur de la chose qu'il n'a pas pu racheter, et c'est le juge qui fera cette estimation. Voilà pourquoi le juge est appelé souvent à faire des opérations d'évaluation pécuniaire. Il y a des dizaines de cas de cette espèce dans le digeste. Un autre exemple nous aidera à mieux nous habituer à cette fonction judiciaire. Dans un procès de répartition d'une chose commune, le juge sera tenu d'évaluer la chose à son juste prix. Dans une chose commune, les copropriétaires souhaitent la diviser. Comment peut-être, par exemple, c'est une chose qui est qu'on ne peut pas diviser, par exemple, un cheval que nous avons en copropriété 3 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On donne la propriété du cheval à un des 3 propriétaires et on donne une compensation pécuniaire aux 2 autres. Mais comment peut-on donner une compensation pécuniaire si on ne fait pas une évaluation préalable? Donc, c'est déjà dans le contexte de la division d'une chose commune, qu'on comprend très bien le rôle du juge. Il faut évaluer la chose. Troisième dernier cas, Le vol était puni à Rome, bien entendu. Et dans l'action un vol, ce ne sont pas les dommages et intérêts, mais bien le prix véritable qui est multiplié par 2 ou 4. C'est-à-dire, le voleur était puni par une peine pécuniaire qui était calculée à partir de la valeur de la chose volée et qui était doublée ou, dans certaines situations, quadruplée. Mais pour arriver à ce résultat, il fallait auparavant évaluer la chose volée. Et le juriste Ulpien nous dit qu'il faut calculer le prix véritable. Qu'est-ce que le prix véritable ? Dans ce texte, il y a aussi une opposition entre le prix véritable et, en latin, id quod interest, qu'on peut traduire en langage juridique actuel, dommage intérêt. Donc, ce n'est pas seulement la valeur de la chose qui a été volée, mais aussi l'intérêt que la victime du vol avait à être propriétaire de la chose. Mais pour les Romains, on ne calcule pas les dommages-intérêts avec cette largeur, mais seulement la valeur de la chose volée. Alors, maintenant, éloignons-nous un peu du juge pour considérer un autre domaine où souvent le juste prix est évoqué, la loi Falcidi, et qui obligeait les testateurs à laisser au moins un quart de ses biens aux héritiers. Donc, cette loi du 40 avant Jésus-Christ, nous en avons parlé très brièvement dans le cadre des lois qui luttaient contre la dissipation du patrimoine, une loi de l'époque du deuxième triumvirat et 40 avant Jésus-Christ, et elle imposait aux testateurs de laisser au moins un quart de la succession à l'héritier, de ne pas la dissiper complètement par des legs. Alors, pour calculer cette portion qui revenait obligatoirement à l'héritier, il fallait estimer la valeur des biens en succession. Et encore une fois, on parle de vérité. Alors, j'aime bien ce mot, nous l'aimons tous, nous savons que la vérité, quand même, est assez compliquée à saisir. Et donc, à ce stade, on ne peut plus échapper à la question de fond. En quoi consiste au juste la juste valeur? Comment un héritier, un acheteur, un juge pouvait établir le justum pretium? Dans ce dernier texte, on parle même de vérité. Mais existe-t-il, au fond, une estimation juste et véritable d'une chose? Alors, c'est un juriste de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, donc quelqu'un qui a travaillé un peu avant les juristes que nous venons d'évoquer, Gaius, Ulpien, Paul. Dans ce cas, il s'agit de Sextus Pedius, quelqu'un qui a travaillé aux alentours du 100 après Jésus-Christ. Fin 1er siècle après Jésus-Christ, début du 2e siècle après. C'est lui qui a trouvé la bonne formule, au point de traverser les siècles. Lisons-la en latin. Accordez-moi ce plaisir. Pretia rerum non ex affectione, nec utilitate singulorum, sed communiter fungi. La valeur d'une chose est celle qu'on lui donne couramment et communément, et non sa valeur singulière, qui prend en compte l'intérêt subjectif de pure affection ou d'utilité d'un seul individu donné. Alors, lisons le texte en entier. Le passage provient d'un juriste plus tardif. Alors, j'insiste sur l'effet de lire les choses en contexte. Alors, ça peut paraître un peu une obsession, mais je pense que nous tous, nous avons pour nous ce désir. Lorsqu'on a une conversation, c'est vraiment... ça nous fait du mal lorsque quelqu'un... tire de ce que nous avons dit seulement quelques mots et la signification ne nous semble pas la même que nous avions donnée dans un cadre d'un discours plus large. Donc je pense que nous avons le même devoir envers les sources anciennes. Alors, le passage provient d'un juriste plus tardif, Paul, au début du IIIe siècle. Vous savez qu'il y a ce dialogue incessant entre les juristes sur une étendue chronologique assez large, surprenant pour nous. Pour nous, c'est la vitesse du changement juridique qui caractérise nos sociétés, tandis que les juristes romains pouvaient parler entre eux à distance de 100 ou 150 ans, ou même plus, dans ce cas à peu près 150 ans. Donc Paul, au début du IIIe siècle, mentionne l'opinion de Sextus Pedius. Le contexte est celui de l'estimation de la perte subie par un propriétaire dont l'esclave a été tué. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, un esclave a été tué, cela constituait un délit puni par la loi Aquilia, qui imposait comme sanction le paiement d'une quantité d'argent correspondant à la plus haute valeur qu'avait eue la victime au cours de l'année. Donc, encore une fois, c'est une peine pécuniaire et il fallait estimer la valeur de la chose, par exemple, qui avait été tuée, de l'esclave ou de l'animal qui avait été tué. Et donc on l'a calculé par rapport à la valeur la plus haute qu'avait eue la victime au cours de l'année. Donc il fallait l'estimer. Alors, j'évoquais le nom, loi aquilienne, lex aquilia. Vous savez que c'est à la base de la responsabilité aquilienne aujourd'hui. Toute activité humaine peut engager la responsabilité de celui qui cause un préjudice à quelqu'un d'autre. Donc, c'est le modèle, c'est cette loi romaine qui a, disons, légué son nom même à ce pan du droit civil. Donc, bien évidemment, cette loi posait un problème d'estimation. Si mon esclave est tué, je pense qu'aucune valeur d'affection ne doit être prise en considération. Comme dans le cas, par exemple, où, alors vous voyez, c'est pas les juristes en tendance pas seulement à exposer des principes, mais aussi à donner des exemples pour nous faire mieux comprendre de quoi s'agit-il. Par exemple, ton fils naturel est tué par quelqu'un. Donc c'est un esclave, mais c'est ton fils naturel. Par exemple, on a eu une relation sexuelle avec une esclave, donc le fils est l'aîné est un esclave, mais c'est aussi le fils naturel du propriétaire. Alors, on t'a tué, ton esclave fils naturel, tu serais prêt à l'acheter à un prix élevé, alors que sa valeur est celle admise par tous. Alors, tu serais prêt à l'acheter à un prix d'affection, mais... Et donc, comme c'est la valeur que tu lui donnes, tu t'attends que le juge va condamner le tueur à une peine qui est en fonction de la valeur que tu donnes à ton esclave fils naturel. Mais les juristes, ils observent, c'est pas le cas, sa valeur est celle admise par tous. Et là, il explique, alors je vous le dis, c'est un texte qui a eu des lectures infinies. Et aujourd'hui également, et au centre de discussions inépuisées, et j'en suis sûr, inépuisables, même après ce cours. Mais il faut vraiment comprendre qu'il s'agit d'un élément majeur de la réflexion occidentale sur la valeur et la richesse. Et donc, lisons le principe. Donc, ça, c'était le début du texte de Paul. Ici, Paul insère le principe qui reprend de son prédécesseur Sextus Pedius. A dit aussi que le prix des choses n'est déterminé ni par leur valeur affective, ni par l'utilité qu'elles peuvent avoir pour une seule personne, mais c'est la valeur qu'on lui donne couramment et communément. C'est pourquoi celui qui possède, alors on tire les conséquences, possède son fils naturel comme esclave, n'est pas considéré plus riche de ce fait. Alors, vous comprenez les paradoxes ? Si je donne une valeur d'affection à mon esclave fils, c'est comme dire que je suis plus riche, parce que cet esclave a une valeur immense. Donc, pour le dire un peu brutalement, il faudrait que je paye plus d'impôts parce que je suis plus riche. Mais ce n'est pas le cas, il n'est pas considéré plus riche de ce fait, parce que si une autre personne le possédait, il serait disposé à racheter pour une somme importante. Donc le mécanisme mental du propriétaire qui a son fils naturel auprès de lui, c'est sérieux, mais je serais disposé à le racheter à un prix énorme. Donc ça veut dire que cet esclave vaut beaucoup. Mais ce n'est pas le cas. De même, on ne peut considérer que celui qui possède le fils d'un autre a dans son patrimoine la valeur qu'il obtiendrait s'il le vendait à son père. Donc on peut faire le contraire. Imaginez-vous, vous avez un appartement, donc vous savez que votre voisin le désire ardemment. Est-ce que dans votre patrimoine, vous considérez d'avoir la valeur à laquelle votre voisin va acheter cet appartement, ou est-ce que dans votre patrimoine, vous êtes censé avoir seulement la valeur de marché de ce bien? C'est ça l'enjeu dont nous parle ce texte. Et conclusion, en effet, dans l'ex aquilia, nous n'obtenons que la réparation de la diminution. C'est une traduction assez personnelle. Le texte latin parle de damnum, donc il dit dans l'ex aquilia, nous n'obtenons que la réparation de la diminution du dommage. Je traduis dommage, damnum par diminution plutôt que dommage, parce que ça permet de mieux comprendre la suite. Et nous disons que la perte, c'est-à-dire la diminution, on pourrait dire le dommage, mais on comprend mieux, que la perte est ce que nous aurons pu obtenir par la vente de la chose qui a été endommagée ou ce que nous sommes forcés de dépenser pour en acheter une nouvelle. Donc, le dommage que nous avons subi par le meurtre de cet esclave est le prix auquel on aurait pu vendre cet esclave ou au prix auquel on aurait pu le racheter. Alors, je pense qu'on a déjà, on commence à comprendre quel est le juste prix pour les juristes romains. On peut prendre ce même sujet d'une façon un peu moins solennelle. Dire qu'il n'y a pas de juste prix, de prix commun, c'est soutenir un paradoxe. Je pense que dans l'historiographie, il y a parfois un peu d'excès de sophistication. C'est donner un démenti à l'expérience quotidienne. il n'est personne qui ne soit convaincu qu'il y a un prix autre que le prix conventionnel, c'est-à-dire le prix qu'on peut négocier entre deux personnes. Et il y a un prix qui est plus objectif. Tous savent qu'il existe un prix qui représente la valeur de la chose d'après l'opinion commune. Par exemple, si on suppose deux personnes qui souhaitent vendre et acheter une chose dont ils n'ont jamais connu la valeur vénale, donc imaginez-vous devoir négocier une chose dont vous n'avez aucune idée de quelle est sa valeur vénale. Vous ne savez pas à quel prix d'autres personnes en pourraient traiter le même jour, dans le même lieu. Alors, le prix auquel vous arriverez sera nécessairement arbitraire. Parce que chacun des co-contractants, consultant ses désirs et ses besoins, se demandera ce qui lui plaît plus ou lui convient le mieux du prix ou de la chose, et l'échange sera fait sur cette base uniquement. Mais on le sent bien, cette hypothèse n'est qu'une sorte d'abstraction ou quelque chose qui nous arrive très très rarement dans notre vie. Il faut prendre en compte que chaque acheteur est normalement intéressé à ne pas payer plus cher à quelqu'un ce qu'un autre vendeur veut bien lui donner à meilleur marché. Il s'établit donc par la comparaison de la totalité des offres avec la totalité des demandes une valeur courante et commune. Et celle-ci diffère sans doute de celle qui se serait établie entre nos deux personnages isolés, sans information, parce qu'elle est le médium, cette valeur est le médium des différentes valeurs résultant du débat entre les contractants d'un nombre bien majeur d'échanges. Et c'est ce médium qui est le juste prix. Je le répète, c'est une expérience qu'on fait tous les jours lorsque nous achetons quelque chose, davantage aujourd'hui parce que nous avons la possibilité de consulter par le biais du réseau les prix de n'importe quelle marchandise. Bien entendu, c'est un peu différent s'il s'agit d'une marchandise standardisée. Et donc, on peut bien se rendre compte de son prix. C'est un peu différent. Par exemple, s'il s'agit d'une chose avec beaucoup plus de caractéristiques. Mais existe-t-il un juste prix des appartements à Paris ? Alors, je pense que peut-être c'est pas juste, mais on peut bien l'établir, arrondissement par arrondissement, même rue par rue. Et donc, on sait très bien, lorsqu'on vend ou on achète un appartement, si nous sommes en train de faire une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Et voilà à quoi fait référence Sextus Pedius par sa formule. Est-ce que par ces mots, on va les relire, le prix des choses n'est déterminé ni par leur valeur affective, ni par l'utilité qu'elles peuvent avoir pour une seule personne, mais c'est la valeur qu'on lui donne couramment et communément. Est-ce que... Alors, d'abord, une précision très importante. Le contexte, c'est un contexte judiciaire. C'est pourquoi la juste valeur est estimé par rapport à une valeur moyenne, parce que le juge a un rôle impartiel entre les parties en litige. Donc c'est pourquoi, dans ce contexte, le juste prix est aussi une valeur, on peut le dire, impartielle, une valeur moyenne, une valeur qui convient à tous. Alors, c'est très important le contexte judiciaire dans lequel nous lisons cette définition. Deuxième remarque, est-ce que, par ces mots, ce juriste romain pensait au marché? Bien entendu, quand je parle de marché dans ce contexte, je ne fais pas référence au forum, au marché physique, lieu d'exposition et de vente de marchandises, au marché de la place d'Aligre ou de la place Monge, je fais référence au marché avec la majuscule. Est-ce que, c'est un problème disons, d'histoire économique majeure, est-ce que les juristes romains, quand ils pensent à ce type de valeur commune, reconnue par tous, est-ce qu'ils pensent au marché avec la majuscule? Oui, je le pense. On peut s'en rendre compte si on examine deux autres textes. Le premier reprend, c'est un texte aussi de Paul, le même juriste qui évoquait Sextus Pedius dans le texte précédent. C'est un texte différent, mais dans ce texte, il reprend plus haut, je ne vais pas recopier cette partie, mais il continue ici et il nous dit « Les lieux et les moments font varier en prix. Les lieux et les moments font varier en prix. » En effet, l'huile ne sera pas estimée au même prix à Rome qu'en Espagne, tout comme elle ne sera pas estimée au même prix en de temps infructueux qu'en de temps fécond. Toutefois, les prix ne doivent pas être estimés en relation au moment seulement, ni selon la cherté qui est rarement atteinte. Alors, ce sont plus ou moins les mêmes idées qu'on trouve ici. Gaius, on lit très rapidement, « Nous savons quelles sont les variations de prix entre chaque cité et région, principalement pour le vin, l'huile et le blé, mais aussi pour l'argent, qui, quoique considéré avoir une seule et même valeur partout, se trouve plus aisément et à des meilleurs taux en certains lieux, mais plus difficilement et à des intérêts plus hauts dans d'autres. » Alors, vous voyez, on peut faire beaucoup de distinctions par rapport à l'idée actuelle de marché, mais ici, vous avez vraiment la conscience romaine de l'idée de marché. Un marché qui n'influe pas seulement sur les prix des marchandises, mais même sur la valeur de l'argent. Alors, il faut faire, bien entendu, des précisions importantes du point de vue historique. On ne peut pas s'imaginer un conglomérat géant de marchés tous interdépendants, dominés par les échanges monétaires. Donc l'Empire romain n'était pas un conglomérat unique de marchés, tous en relation les uns avec les autres. Ce serait une exagération irrécevable. Sans nier l'importance des échanges à longue distance que les archéologues sont en train de documenter de façon de plus en plus précise. Je rappelle les cours de mon cher collègue Jean-Pierre Brun. Mais l'Empire romain doit être conçu quand même comme un endroit où coexistaient plusieurs circuits on peut les appeler marchés, intra-régionaux et interrégionaux. Donc, il y avait plusieurs marchés qui étaient plus ou moins connectés. Et donc, il y avait des connexions qui faisaient qu'il y avait des niveaux de prix, disons, comparables, mais comme il n'y avait pas une interconnexion comme celle, par exemple, qui est permise par Internet, qui fait que si je peux acheter une marchandise à un prix bien moins cher par un clic, je le fais, et donc ça, même si, disons, le marchand est situé à des milliers de kilomètres de distance, et donc ça tend à uniformer les prix, au moins sur certaines marchandises. Donc, ce n'était pas évidemment le cas pour l'Empire romain, mais quand même, il y avait des interrelations entre les marchés. Et en tout cas, il y avait des marchés assez étendus, même s'il n'était pas, il n'y avait pas un marché seulement, il y avait des marchés presque régionaux. Donc il faut travailler avec ces structures qui donnent leur empreinte aussi à la pensée des juristes. On pourrait commenter ces textes parce qu'il y a beaucoup d'éléments très, très importants. Par exemple, on va y revenir, il y a un lien très clair entre la rareté des biens et leur prix. Ce qu'on pense, qu'on dit souvent, c'est une découverte moderne. Les anciens n'avaient pas l'idée que les ressources étaient limitées. On voit très bien ici qu'est-ce qu'il en pense. Alors, ce que je me permets de et aussi, je l'ai déjà remarqué, cette réflexion sur la valeur de l'argent, c'est vraiment un peu une anticipation, si j'ose dire. Nous sommes presque à la conclusion et je souhaite renforcer le cadre qu'on peut tirer de ces deux textes par un petit relevé terminologique. Je crois qu'il y a au moins deux termes latins et qui font comprendre que les Romains avaient thématisé l'existence du marché au sens virtuel, avec la majuscule. Il s'agit d'abord du mot « annona ». Ce terme provient de « annus », « année ». Et donc, vous avez compris, ça indique le produit agricole d'une année. Et sa signification originaire s'étend ensuite à indiquer le prix des produits agricoles de l'année. Et on parlait souvent à ces propos de caritas annone, ou cara nona. Alors, le substantif caritas et l'adjectif cara viennent du verbe carere, manquer. Et donc, donc nous avons ici encore une fois un rapport entre le fait que le prix monte, devient cher, et le manque de disponibilité d'offres. Et donc, également en français, l'adjectif cher, même si nous n'en avons pas la conscience, implique qu'un bien est insuffisant. Alors, je pense que ne serait que dans ce vocabulaire latin, on retrouve déjà toute une théorie économique en miniature. Et donc, je ne pense pas que les anciens n'avaient pas réfléchi au rapport entre rareté et richesse. Autre mot que je trouve encore plus beau pour indiquer le marché est conversatio, souvent accompagné par l'adjectif publica, public, donc publica conversatio. Très difficile à traduire, le mot conversatio indique des relations d'affaires ou amicales, une fréquentation. C'est le terme, ça correspond au terme commerce au sens ancien du mot. Avec l'adjectif publica, conversatio indique la circulation, l'ensemble des relations économiques, donc le marché, comme dans ce texte du code théodosien. On n'a presque jamais parlé des codes de l'Antiquité tardive, on le fera, je l'espère, peut-être pas dans ce cours cette année, mais dans le cadre d'un autre cours, mais il s'agit d'une constitution impériale, d'une loi de l'Antiquité tardive, notamment de l'empereur Julien, celui qui est connu comme Julien l'Apostate. Donc, 300, la datation, je pense que c'est 363 dans les manuscrits, mais on la corrige 362 après Jésus-Christ. C'est une loi impériale qui dit que les habitants de la Campanie, la région au sud du Latium, donc à laquelle appartient par exemple Naples, Pompéi, Puzzole, les habitants de la Campanie sont sommés de payer la taxe pour chacune des livres de porc. Donc c'est une disposition fiscale. En fonction des prix qui se trouvent chaque année dans les échanges publics, dans la publica conversatio, quae reperiuntur in publica conversazione. De sorte que les habitants de la Campanie ne doivent pas verser la taxe par rapport au prix que l'on trouve dans la ville de Rome. Vous voyez la variation de prix selon les lieux, mais bien dans l'usage public parmi les habitants de la Campanie, les Campaniens. In publicis usibus, c'est une autre façon de dire la même chose. Alors, ce texte nous présente l'idée abstraite de marché, qualifiée de publica conversatio, d'échange au niveau d'une communauté. Dans cette loi impériale, on retrouve la conscience de la variation des prix en fonction du temps que nous avons déjà rencontré chez Gaius et Paul, pas seulement du lieu, mais vous voyez, aussi per singulos annos, c'est-à-dire pas seulement le lieu, mais aussi le temps. Et il y a aussi une donnée économique, d'histoire d'économique disons plus concrète, c'est-à-dire il nous dit que même par rapport à une distance assez réduite comme celle qui s'ouvre entre le Latium et la Campanie, il pouvait y avoir des variations de prix sensibles. Donc les marchés avaient une dimension qui était régionale. Par exemple, il n'y avait pas un seul marché italien. Je suis donc tout à fait d'accord avec ceux qui considèrent que le libre marché était connu par les Romains et qu'il correspondait à une réalité, non seulement à une notion, et je souhaite rappeler à ces propos les études pionnières d'un grand savant italien, Elio Locascio. Revenons donc aux juristes. Lorsqu'il parle de communiter fungi, d'évaluer le prix selon la valeur courante commune, il se réfère au prix du marché, bien entendu dans les limites très précises que j'ai souvent évoquées lors de cette séance. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi, dans l'historiographie contemporaine, on a souvent du mal à traduire l'adverbe communiter. On a même pensé que quand les théologiens, les juristes médiévaux l'employaient, c'était pour évoquer une sorte de contrôle communautaire sur les prix. Dans un monde idéal où il y aurait eu cette fraternité-proximité. c'est, à mon sens, plaquer une idéologie contemporaine sur les sources anciennes, leur attribuer des pensées qu'ils n'avaient pas. Alors, je comprends par ailleurs la difficulté à traduire en français l'adverbe communitaire par un seul mot, mais je pense que la signification n'en demeure pourtant pas moins claire. Donc j'ai utilisé deux adverbes couramment, communément, mais donc, la signification est très claire. C'est la juste valeur, c'est le prix moyen qui ressort des libres échanges à un moment et à un endroit donné. Je veux d'ailleurs souligner que cette idée est, au fond, déjà dans le nom. Si les juristes romains parlent souvent de « pretium », en l'utilisant en tant que synonyme de valeur, ce n'est pas parce qu'ils pensent seulement au contrat de vente et d'achat, mais c'est parce qu'ils pensent que la juste valeur d'une chose est celle qui se déterminerait si on met cette chose à la vente. Donc, c'est déjà tout ce que je viens de vous dire, on aurait pu le trouver déjà dans le mot. Une fois déterminé qu'il existait un prix juste en tant que moyenne, une autre question s'impose. Est-il légitime de vendre un bien à un prix bien au-dessus de la moyenne du marché? Est-ce qu'il est légitime de vendre un bien et conclure un contrat à un prix bien au-dessus de la moyenne du marché? Peut-on résilier un contrat du fait que le prix que nous avons accepté de payer est trop cher? La réponse, nous la verrons lors de la prochaine séance, la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous souhaite des sereines fêtes de Pâques, que ce soit pour vous tous en temps de paix, et je vous remercie pour votre attention qui est pour moi sans prix. Merci.